Vous écoutez France Culture.
Il y a certes un droit positif relatif aux animaux, mais peut-on en déduire que les animaux ont des droits ? N'est-ce pas plutôt nous, les hommes, qui avons des obligations envers eux ? Les animaux ne peuvent en effet faire respecter leurs droits sans notre intermédiaire. Et en quoi consisteraient ces droits ? Un droit à la vie ? Certainement pas. Un droit au bien-être ? Un droit à ne pas souffrir ? Voilà des questions qu'on va se poser ce matin en compagnie de mes deux invités. Jean-Marie Coulon, magistrat qui représente la France à l'Agence européenne des droits fondamentaux et qui vient de signer aux éditions Dalloz un petit ouvrage, petit à tous les sens du terme, parce qu'il s'agit d'un petit livre en format, avec Jean-Claude Nouette, intitulé « Les droits de l'animal », avec une très belle préface de Raymond Depardon. Et pour en débattre avec Jean-Marie Coulon, avec un juriste, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est philosophe, chargé de recherche auprès de l'École normale supérieure et qui a signé un ouvrage il y a maintenant un peu plus d'un an, intitulé « Éthique animale », préfacé par Peter Singer, le célèbre philosophe américain que l'on trouve aux éditions des PUF. Alors, je me retourne d'abord devant vous, Jean-Marie Coulon. Et comment le droit parle-t-il de l'animal ? Est-ce qu'il y a un droit de l'animal au sens un corpus juridique de texte qui protège les animaux ?
Certes, c'est vrai que dans le commun, pour le commun des mortels, on parle beaucoup plus de devoir que de droit. Et nous avons, Jean-Claude Nouette et moi-même, défendu cette thèse, qui n'est pas d'ailleurs très, c'est pas très nouveau, défendu cette thèse qu'il fallait plus parler de droit que de devoir. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'en général, si on parle des devoirs de l'homme à l'égard de l'animal, bah, c'est implicitement, ça sous-entend que l'animal a des droits. Déjà
est-ce que c'est aussi certain ? Je demanderai ensuite aux philosophes.
C'est vrai. C'est vrai.
Et est-ce qu'on peut induire le fait que nous ayons des obligations à l'égard des animaux, et vous allez nous rappeler lesquelles, peut-on en déduire que du coup l'animal a des droits ?
Alors je vais aller plus loin.
Oui.
Je vais aller très plus bien. Loin. Et je crois qu'on peut faire une distinction, c'est ce que nous essayons de faire, entre la protection des animaux et le respect des animaux.
Oui.
La protection animale, c'est grosso modo toute la réglementation qui peut exister actuellement en France, la réglementation proprement française ou issue du droit communautaire.
Oui. Qui est extrêmement en avance par rapport à nous.
Très en avance.
En fait, le droit français est entraîné par le droit européen.
Très en avance. Je pense même à Maastricht, à Amsterdam et le traité de Lisbonne. Donc la protection animale, c'est quelque chose d'objectif. En revanche, accorder des droits, c'est respecter l'animal, parce que on va au-delà des contingences purement matérielles. Respecter l'animal, accorder des droits, ça veut dire qu'on prend en considération le comportement relatif au bien-être animal. Donc c'est un degré supplémentaire. Alors peut-être aussi il y a des approches scientifiques, je pense à l'approche biologique, où on nous dit, à juste titre, que l'homme et l'animal sont, pour employer une expression courante, sont sur un même continuum. Mmh. Et que à partir de là, eh bien, toutes les conceptions qui privilégient l'espèce animale, eh bien, toutes ces conceptions tombent. Et que, eh bien, là aussi, on arrive dans le droit.
Alors c'est ça. On va reprendre toutes ces questions, parce que là, vous nous avez énoncé un certain nombre d'affirmations sur le continuum. Absolument. Et sur qui était un premier
différence
problème.
De degré et pas de nature.
Oui, mais et qui est la difficulté de considérer l'animal en soi, parce que l'animal, ça va depuis le microbe, le virus qui nous infecte est un animal également, ce qui n'est pas sans poser de problème. Alors,
mais la vie est diversifiée.
Tout à fait. Mais alors, je me tourne vers le philosophe Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Est-ce que pour vous, on peut parler Est-il utile et est-il possible, est-il justifié de parler d'un droit de l'animal ? C'est-à-dire que de considérer que l'animal serait détenteur en lui-même de droit.
Déjà, je voudrais, à titre introductif, distinguer deux choses qui sont souvent confondues en France dans le vocabulaire qu'on emploie. Parce qu'on a un seul mot en français, c'est le mot « droit oui. ». Tandis qu'en anglais, on en a deux. Oui. On a « rights » et on a « law ». Et du coup, en français, on a tendance à confondre les droits de l'animal au pluriel, « animal rights », et le droit animal, qui serait « animal law », et qui serait ça, l'étude du statut juridique de l'animal dans le droit positif. Donc il faut déjà savoir à l'origine si on parle de droits moraux, c'est-à-dire de « animal rights », ou si on parle de droits éventuellement légaux, c'est-à-dire quels sont les droits dont dispose l'animal dans le droit positif.
Alors, je vais reformuler ma question, parce que vous le dites à un moment de votre ouvrage. Est-ce qu'il s'agit d'un usage métaphorique, analogique du mot « droit » ou peut-on considérer que les animaux réunissent tous les réquisites nécessaires pour qu'on puisse parler de droits, droits qu'on associe en général à devoirs, droits qui sont associés avec la capacité de défendre ses droits, droits qui sont associés avec un pacte politique initial.
On peut le faire, mais après, c'est essentiellement, à mon avis, une question stratégique. C'est-à-dire que dans le milieu très général de l'éthique animale, qu'il faudrait peut-être définir plus tard, mais pour vous répondre tout de suite sur cette question-là, il y a des gens qui défendent effectivement des théories des droits des animaux. Et il y a d'autres gens qui sont dans ce même milieu et qui peuvent être aussi véhéments et aussi attachés à la défense des animaux, mais qui vont, eux, défendre des intérêts des animaux et qui vont parler plutôt en termes de devoirs et en termes de considération des intérêts. Quelqu'un comme Peter Singer, par exemple, et tous les gens qui sont dans une tradition utilitariste sont dans cette seconde catégorie. Pourquoi ? Parce que parler de droit peut être un petit peu trop rigide et pose le problème des exceptions. C'est-à-dire que si on donne des droits à l'animal, qu'est-ce qu'on fait de l'expérimentation animale ? Qu'est-ce qu'on fait de l'alimentation ? Si on dit
qui sont quand même des problèmes majeurs.
Qui sont des problèmes majeurs. Et je rappelle que l'alimentation, c'est 53 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde à l'heure actuelle, sans compter les poissons, pour l'alimentation. Et que donc, on est tout de même soucieux de savoir ce qu'il faut faire de ces catégories. Si jamais on donne des droits à l'animal, dont le droit de ne pas souffrir, est-ce que c'est un droit de ne pas être exploité ? Auquel cas, ça devrait couvrir toutes les catégories, y compris ces deux catégories que je viens de soulever. Est-ce qu'on doit introduire la notion de souffrance utile pour justifier ces exceptions ou nécessaires ? Et à ce moment-là, ça pose des problèmes assez fins de définition. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait appeler la tentation de l'abolitionnisme quand on parle de droit ? Et là, il faut distinguer. Est-ce que je peux le faire ? Ou plus tard, peut-être ?
Peut-être plus tard, parce que je voudrais justement poser la question aux juristes, aux magistrats. Quel est le contenu de ces droits ? Alors là, Jean-Baptiste Dangène Villemer vient d'énoncer, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'une protection d'un droit à la vie de l'animal ? Est-ce qu'il s'agit d'un droit au bien-être ? Est-ce qu'il s'agit d'un droit à ne pas souffrir ? Qui sont trois choses différentes et qui engagent des présupposés différents sur le plan du contenu juridique et bien sûr sur le plan même éthique. Jean-Marie Coulon.
Ben je crois que vous venez l'un et l'autre d'employer des mots forts. Et le mot souffrance, le mot bien-être... Et pour en revenir justement à cette approche du droit, quid de ce droit, peut-être qu'il faut opposer, pas opposer dans un sens de complémentarité, donc c'est pas opposé en réalité, c'est l'éthique et le droit. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'éthique recouvre un certain nombre de droits fondamentaux. Vous avez parlé de la souffrance, le droit à la vie, le droit des espèces sauvages de ne pas disparaître, le bien-être... Effectivement, on peut considérer que ce sont des droits fondamentaux qui relèvent de l'éthique. Mais pour le juriste, il s'agit de transformer ces droits fondamentaux, ces plusieurs droits, en un droit applicable dans une réglementation. Et là, on passe de l'éthique au droit. Je crois que tout le problème, il est là. Oui. Et que ce passage des droits fondamentaux relevant de l'éthique au droit lui-même, oui, c'est là qu'il y a problème.
Jean-Marie Coulon, cette transposition se fait en fonction de valeurs que poursuit le droit. Et ces valeurs sont différentes. Prenons l'exemple entre la mort et la souffrance, ou la vie et la souffrance. C'est-à-dire les animaux, vous rappeliez 53 milliards d'animaux, de vie animale, pourrait-on dire, supprimés pour l'alimentation humaine par an. Est-ce qu'on peut parler d'un droit à la vie. Est-ce qu'on respecte la vie en tant que telle ? Il ne semble pas.
Oui.
Alors, Jean-Marie Coulon.
Vous parlez, je vais rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, lorsque on compare, par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire, les droits de l'homme aux droits de l'animal, bon, il y a un moment, il y a un problème qui se pose. Le problème des protéines, par exemple. Le problème des protéines végétales et des protéines animales. Bon, et il est évident que avec une consommation de viande qui se développe de plus en plus, et on assèche dans les pays émergents, on assèche.
C'est ça.
Ce règne des protéines.
Oui, mais ça vous apportez un argument strictement utilitaire. C'est-à-dire, dans le fond, il est plus.
Non, c'est le conflit possible qui peut. Parce qu'on dit toujours, mais les droits de l'homme l'emportent, etc. Non, c'est les conflits possibles, alors qu'il devrait y avoir des convergences.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemer, continuum ou différence entre les droits de l'homme et les droits de l'animal ?
Juste avant de répondre à cette question-là, j'aimerais revenir sur la question de la viande, parce qu'on a un petit peu trop tendance à considérer que l'alimentation carnée est par définition un besoin. Il me semble que la question mériterait d'être posée. Je ne suis pas médecin, monsieur Coulon non plus, et je sais que la communauté médicale est davantage divisée qu'on peut bien le dire là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de mener une vie normale, et en général même si on compare les moyennes plus longues, si on est végétarien que si on ne l'est pas. Donc je voulais juste rappeler ça et dire que ce n'était pas non plus un préjugé, un présupposé sur lequel il fallait partir, que l'alimentation carnée était un besoin, c'est peut-être un désir. Et donc il faut s'interroger pourquoi c'est peut-être une construction sociale.
Une sorte de réaffirmation de l'homme, de sa domination sur l'animal.
Oui, certainement, et c'est quelque chose aussi qui est culturellement variable. Quand on voit qu'il y a 20% de végétariens, par exemple, en Inde, et qu'il y en a 6% en Angleterre, peut-être 3-4% au Canada et beaucoup moins en France, c'est quelque chose qui est culturellement variable.
D'ailleurs, Peter Singer, dans sa préface, commence par dire que ce qui l'a frappé, la première chose qui l'a frappé dans son premier voyage en France, c'est l'intolérance des Français à l'égard des végétariens. Mais ils reviendront sur cette dimension spécifiquement française. Je voudrais qu'on s'arrête pour nos auditeurs. Quel est le fondement de cette possible attribution de droit à l'animal pour vous? Est-ce que ça veut dire que c'est les animaux, c'est la vie en eux qu'il faut respecter? Est-ce que c'est l'absence de souffrance qu'il faut promouvoir? Est-ce que c'est le monde qu'il faut préserver et la biodiversité et la nécessité de ces espèces animales? Quel est le fondement que vous attribueriez, Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemer?
Oui, alors ça, c'est une question intéressante. On va procéder par élimination. D'abord, ça ne peut pas être la vie à elle seule qui peut suffire, parce qu'à ce moment-là, enfin, les animaux ne sont pas les seuls êtres vivants, et on ne s'en sort plus. Et on va aller jusqu'au attribuer des droits aux bactéries, et puis se pose la question des arbres, de toute la vie végétale.
Du vivant, on passe de la vie au vivant.
Voilà, du vivant en général. Donc la vie à elle seule ne peut pas suffire, et ce serait faire une confusion entre éthique environnementale, c'est-à-dire grosso modo écologie ou écologisme, et puis éthique animale. Et donc la différence, c'est que l'animal est un être vivant sensible. Alors, il est très difficile.
Tous ne sont pas aussi sensibles d'ailleurs.
Mais tous ne sont pas aussi sensibles, et c'est la raison pour laquelle il est important de préciser de quels animaux on parle. Et ça, c'est une grande question d'abord, parce qu'on parle de droit des animaux, de droit pour les animaux, mais de quels animaux parle-t-on? Tous les animaux sont-ils concernés, etc.? Ce n'est pas très clair. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est la souffrance qui est le point de départ, en tout cas, de l'éthique animale anglo-saxonne. C'est parce que l'animal a une capacité de souffrir. Si l'animal n'avait pas la capacité de souffrir, nous ne serions pas indignés. Et c'est quand même, à l'origine, y compris dans les cheminements personnels, une indignation, un sentiment psychologique dont on part. On est choqué par certains comportements qu'on voit, par certaines images. Et donc, c'est uniquement parce qu'on sait que l'animal souffre et qu'il y a cette espèce de communauté de souffrance entre lui et nous.
C'est en nos sentiments moraux que l'animal puise la justification de ses droits, ce qui est un peu paradoxal.
Bien, oui, mais il ne pourrait pas les puiser ailleurs, où il faudrait se situer du point de vue de Dieu ou du point de vue de nulle part.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une question qui me semble importante et à laquelle nous conduisent tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est l'anthropomorphisme ou l'anthropocentrisme du droit. Dans le fond, est-ce que le droit doit préserver, ou est-ce que le foyer est l'unique foyer de sens du droit et des droits de l'homme? Eh bien, c'est l'homme, précisément, duquel irradie des obligations envers les animaux et envers le monde et envers la planète. Ou est-ce qu'il faut concevoir une polycentricité du droit où il y aurait, le droit viendrait de l'homme, il viendrait de la nature, il viendrait des animaux?
On peut et on devrait, en théorie, concevoir cette polycentricité du droit. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est tout de même une évidence, c'est que c'est l'homme qui distribue les droits. Donc ce n'est pas l'arbre qui va réclamer des droits, ce n'est pas l'animal qui va le faire, c'est l'homme qui les distribue. Donc même s'il y a cette polycentricité, et si c'est quelque chose de souhaitable, autrement dit, l'homme doit essayer de se décentrer. C'est un effort qu'il doit essayer de faire, mais c'est un fait que c'est lui qui distribue les droits.
Et c'est lui qui accorde les droits.
Et c'est lui qui
les accorde. Et c'est peut-être que la grandeur, Jean-Marie Coulon, du droit de l'homme et de l'homme serait de capable de partager des droits, d'attribuer des droits à d'autres que lui-même.
Je crois qu'il faut éliminer de notre pensée des mots qui font référence à cette idée d'anthropocentrisme. Je crois qu'il faut véritablement éliminer ça. Anthropocentrisme qui privilégie l'espèce humaine. Et à partir de là, je crois qu'on avance. Vous avez employé les mots souffrance. Oui, on pourrait aussi d'ailleurs employer le mot douleur. Le mot souffrance, le mot douleur, l'animal reconnu comme un être sensible. C'est quelque chose, du point de vue juridique, la loi 76 en France. Reconnu comme un être sensible. Et tout à l'heure, je faisais allusion à l'approche biologique. Et je crois qu'enfin toute la théorie de l'évolution, le biocentrisme, justifie justement cette approche juridique qui peut être diversifiée en fonction évidemment de tel ou tel animal. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des règles fondamentales qui s'appuient sur qui s'appuient sur cette notion de souffrance et de sensibilité. Même si sensibilité, il y a plusieurs degrés.
Bien sûr. Je suis frappé, pour clore ce chapitre philosophique, mais essentiel pour notre sujet, je suis frappé de ne pas voir apparaître dans le débat, mais je parle sous votre contrôle, Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer, le mot dignité. Parce que la dignité, c'est précisément la référence à la dignité de la Renaissance, c'est l'ordre dans la création. Et donc la dignité humaine, c'est précisément cette séparation qui fait que l'homme est une créature à part. Et donc il y aurait une mise en communication finalement de l'éthique animale et de la dignité humaine, car elles sont profondément liées. Or, je ne l'ai pas vu dans le débat philosophique jusqu'ici, je parle sous votre contrôle.
Oui, c'est vrai, mais c'est également parce que c'est quelque chose qui est très associé à la tradition humaniste, qui met l'homme au centre et qui du coup subordonne le reste, non seulement l'animal mais tout l'environnement, à l'homme. Et c'est quelque chose qui pose problème à l'éthique animale et à ceux qui défendent les droits des animaux. Et c'est une résistance qui est très forte en France, puisqu'en France, il y a cette tradition humaniste qui est très très forte, y compris chez certaines personnes qui défendent les animaux.
Comment vous l'expliquez, cette résistance française ?
Ah, mais ça, on peut l'expliquer, je peux venir là-dessus. On peut l'expliquer par différentes raisons. La première, c'est donc cette histoire de tradition philosophique. La tradition humaniste en France est particulièrement forte. Également, autre raison philosophique, le fait qu'on a tendance en France, dans la manière de faire de la philosophie à l'université, à confondre la philosophie et son histoire. C'est-à-dire que si on va vous poser des questions assez concrètes sur la manière dont on doit traiter les animaux aujourd'hui, on va vous répondre en citant Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, et on aura du mal à arriver jusqu'aux contemporains, y compris à étudier les contemporains qui sont souvent des contemporains anglophones, parce qu'on a des problèmes aussi à lire l'anglais. Par exemple, Peter Singer est le seul qui est actuellement traduit en français depuis 1993, et donc on a tendance à réduire le courant anglo-saxon à Peter Singer, alors que c'est juste une position bien particulière dans le champ.
Et je renvoie les auditeurs à votre livre s'ils veulent avoir une cartographie complète de ces débats philosophiques autour de la question.
Si on veut en voir la diversité, surtout si on veut se rendre compte que Peter Singer, contrairement à ce qui est dit souvent, ne défend pas les droits des animaux en général. Donc après, il y a un deuxième groupe de raisons pour lesquelles en France il y a ce blocage, ou plutôt ce ralentissement. Ce sont des raisons qu'on pourrait appeler culturelles. C'est l'importance de la gastronomie française dans l'identité française. C'est parce que si jamais on va jusqu'au bout du raisonnement...
Et qui a quelque chose à voir avec l'animal, précisément.
Bien sûr qu'il y a quelque chose à voir avec l'animal, parce que, donc, j'allais dire, si on va jusqu'au bout du raisonnement et qu'on commence à parler des droits des animaux ou des devoirs que nous avons envers eux, nous parlerons nécessairement de pratiques comme la corrida ou le foie gras, c'est-à-dire le gavage.
Bien sûr.
Et là, on remet en cause des choses qui, pour bon nombre de Français, sont des composantes identitaires.
De la même manière qu'on pourrait faire le lien entre la chasse, le droit de chasser, et la Révolution française et cette tradition, finalement, ce souvenir de la féodalité, ce souvenir de l'identité inégalité, que contient le droit de chasser?
Un droit de chasser qui n'est en réalité qu'une faculté, comme il est bien dit dans petit livre de Coulon.
Bien sûr.
Alors, je partage ce sentiment et c'est très intéressant. L'exemple de la corrida est très intéressant parce que sur le plan juridique, il y a des règles qui sont posées et il y a l'exception qui s'appuie sur la tradition. La corrida, les combats de coq, par exemple.
Eh bien, et aussi des exceptions qui vont s'appuyer sur la religion, d'ailleurs, que vous expliquez dans votre livre.
Aussi, d'accord. Coulon. Non, mais rebondir sur l'exemple de la corrida, sur la tradition. D'ailleurs, je note au passage que l'Espagne est plutôt sur une voie restrictive de la corrida. Ça, c'est, alors que c'est quand même un peu le berceau. Je ne parle pas de Séville, mais enfin, je parle de la Catalogne. Bien. Et ça, c'est, je voulais faire cette remarque. Alors, les juristes appelleront ça un fait justificatif.
Oui.
Bon. Mais sur la dignité. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dignité humaine. Bon. La dignité humaine, oui. D'accord, bien sûr, mais la dignité humaine n'exclut pas la dignité reconnue à l'animal dans le cadre du respect qu'on lui doit, et respect pour moi qui signifie la reconnaissance de ses droits.
C'est ça. Alors, je continue de m'adresser aux juristes que vous êtes. Comment vous qualifieriez juridiquement un animal? Vous avez parlé des êtres sensibles. Est-ce qu'il s'agit d'un être sensible? Est-ce qu'il s'agit d'un bien? Est-ce qu'il y a un statut unique à tous les animaux? Comment débrouiller ce maquis de concepts juridiques qui n'est pas véritablement unifié pour l'instant? C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous savez, on a tendance à dire que les juristes, comme tous les scientifiques, se protègent par les mots. Là, je ne vois pas très bien comment ils se protègent. Parce que vous avez une conception très moderne, très, très nouvelle, reconnue dans le code pénal, où globalement, on reconnaît que l'animal est un être sensible, souffrir, on va réprimer les
défini
sévices.
Défini par son aptitude à souffrir.
Absolument. On va réprimer les sévices, on va réprimer le mauvais traitement, etc., etc. Donc, il y a une graduation. Mais en revanche, dans le code civil, on s'accroche. Les civilistes s'accrochent.
C'est un bien.
C'est un bien. Alors, il y a la loi de 99 qui a fait progresser les choses. Il y a des propositions qui vont dans le sens soit du bien protégé, soit la proposition capitan qui isole un petit peu l'animal. Mais tant qu'on n'aura pas franchi le pas supplémentaire, c'est-à-dire que dans le code civil, il y a les biens, les personnes et les biens, et qu'il y a aussi autre chose, qu'il y a aussi l'être vivant.
Ni personne, ni bien.
Voilà, l'être vivant.
Être vivant.
L'être vivant, qui serait troisième.
Alors,
c'est une proposition intéressante qui avait été faite notamment par Suzanne Antoine dans son rapport sur l'animal qui avait été demandé par le garde des Sceaux en 2005. Ouais. Donc je note au passage que c'est une demande du gouvernement.
Bien protégé, c'était la position la plus faible.
Il y avait différentes propositions qu'on peut faire pour améliorer cette situation, ou plutôt harmoniser le statut juridique de l'animal, puisqu'effectivement, il y a d'un côté, dans le code pénal, il est protégé comme un quasi-sujet, et même dans le code rural, il est reconnu comme être sensible, et d'un autre côté, dans le code civil, il est considéré comme un bien. Et donc le premier stade, c'est de le laisser dans la catégorie de bien, mais de le protéger, de dire que c'est un bien protégé. Il a un statut particulier, il y a certains pays européens, je crois, qui l'ont fait. Un stade plus audacieux et qui serait plus cohérent avec ce qu'est l'animal, puisque le laisser dans la catégorie des biens protégés, c'est finalement considérer toujours qu'il est un bien. Et donc, c'est ne pas remettre en cause profondément le problème. Donc, un deuxième stade, ce serait de créer une troisième catégorie, une catégorie intermédiaire. Ce serait beaucoup plus audacieux, beaucoup plus cohérent également avec ce qu'est réellement l'animal. Le problème, c'est que là, ça se heurtera à de très fortes résistances.
Ouais. De
la part des juristes même, je pense, de ceux qui sont les plus puristes ou les plus rigoristes ou conservateurs, si on veut, mais également de la part des politiques sous la pression des lobbies, de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, etc. Parce que si l'animal n'est plus un bien, ça va changer beaucoup de choses, ça va avoir beaucoup de conséquences pratiques.
Alors, je vous rappelle que vous êtes sur France Culture, l'émission Le Bien Commun, qui porte ce matin sur les droits de l'animal, avec mes deux invités, qui sont Jean-Baptiste Jean-Gel Villemer, philosophe, et Jean-Marie Coulon, magistrat. Alors, quel est, abordons maintenant le contenu de ces droits précisément. Alors, qu'est-ce que nous dit le droit, Jean-Marie Coulon ? Il interdit de faire souffrir inutilement. Ou est-ce qu'il va jusqu'à demander, exiger un bien-être animal ?
Ah oui,
qui sont deux choses différentes, bien sûr.
Tout à fait. La notion de bien-être animal est reconnue maintenant dans la loi. Alors, je ne parle pas de la loi civile, hein,
oui, c'est ça.
Mais je parle de toutes les autres. Vous avez cité le code rural, de toute façon, l'article, je ne sais plus combien, peu importe, du code rural, qui reprend donc la loi de 76, de 1976, et toutes les dispositions de nature pénale. Alors, là, c'est pour le cadre classique, pour faire court. Alors, bien entendu, il y a toutes les exceptions.
Mais comment commençons par les règles, alors ?
Attendez, oui, pardon. Alors, sur les règles pénales.
Les règles pénales.
Alors, les règles pénales, globalement, retiennent la négligence, le mauvais traitement, les sévices. Hein, voilà, de nature, les sévices graves. Bon. Et à partir de là, vous avez tout un corpus de nature pénale, mais avec les exceptions. Et tout à l'heure, on a parlé de la corrida, les exceptions relatives à la tradition, c'est-à-dire que la tradition vaut fait justificatif pour une immunité, pour la corrida et pour les combats de coq. C'est deux grandes exceptions. Alors, je dis un mot d'une autre exception importante, mais qui d'un degré différent, c'est le gavage des oies, par exemple.
Et alors, qu'est-ce que dit là ?
Ça rentre dans le patrimoine culturel. Mais il est évident que le gavage des oies, tel qu'il se pratique, on ne peut pas dire, c'est quand même le moins compliqué, hein, c'est que ça ne respecte pas véritablement la dignité de l'animal, son bien-être. C'est une évidence.
Jean-Baptiste Villemer.
Oui, il me semble qu'il faut dire aussi qu'il y a une évolution et une certaine tendance à l'heure actuelle en Europe, et qui est d'ailleurs une tendance exclusivement européenne. Il faudra ensuite s'interroger peut-être sur cette exception européenne et sur la situation notamment du continent américain et du continent asiatique. Mais il y a une forme de pénalisation et de constitutionnalisation qui fait d'une part que les sévices à l'égard de l'animal sont punis de plus en plus sévèrement, et on a vu récemment, il y a quelques années, notamment en Italie, une sévérité accrue dans les lois qui ont fait polémique. Donc il y a comme cette tendance-là qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire que l'animal est de plus en plus protégé comme un sujet, si l'on peut dire. Et d'un autre côté, il y a une forme de constitutionnalisation qui fait qu'on introduit non seulement l'animal, mais également la nature ou des espèces au sein de certaines constitutions, notamment en Allemagne, en Pologne, en Suisse, etc. Donc il y a tout de même un mouvement en ce moment.
Comment expliquez-vous, parce que là pour l'instant on parle du monde occidental, il n'y a qu'une différence avec les États-Unis, il faudra qu'on dise un mot de l'Asie, mais ouais. Bon, comment expliquez-vous cette spécificité européenne?
On peut l'expliquer.
Parce que cette philosophie, elle nous vient d'Australie et des États-Unis principalement.
Oui, vous, enfin, Peter Singer est un philosophe d'origine australienne, mais il a fait ses études à Oxford et maintenant il est aux États-Unis depuis longtemps. Mais oui, c'est plutôt la tradition anglo-saxonne. On peut l'expliquer par le retard américain ou anglo-saxon dans la pratique. Pas tellement anglo-saxon puisque les Anglais sont à part quand même, mais aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette forme de, pas de schizophrénie sociale, mais à cette forme d'incohérence entre le fait que, d'un côté, dans les universités, on enseigne beaucoup l'éthique animale, on pourra aussi parler de la formation tout à l'heure, il y a des cours de animal law dans la moitié des facultés de droit américaines, alors qu'en France, il y a 3-4 personnes qui ont fait leur thèse sur l'animal dans les facultés de droit, c'est tout à fait exotique. Et le grand public est beaucoup plus sensibilisé à ça, et il y a davantage de végétariens que chez nous, donc tout l'aspect intellectuel de la question, il est beaucoup plus développé. Mais l'aspect pratique, il est beaucoup moins développé, c'est-à-dire qu'il est tout à fait permis de faire des choses abominables sur les animaux. L'élevage industriel y est beaucoup plus développé. Nous, on a la corrida, ils ont le rodéo et d'autres activités qui sont guère mieux. Donc, en pratique, ça ne va pas, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que il y a aux États-Unis, c'est une question de système politique. Le Congrès américain est beaucoup plus sensible aux pressions des lobbies, qui sont d'ailleurs beaucoup plus puissants, des lobbies de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Tandis qu'il y a, à l'échelle, pas forcément en France, j'en sais rien, je ne parlerai pas pour la France, mais à l'échelle de l'Europe, des règles qui garantissent une distance plus grande. Ces lobbies peuvent exercer une pression. mais cette pression est moindre et il y a davantage de garde-fous. Donc c'est cette indépendance du politique qui est plus grande en Europe et qui permet qu'on peut passer des lois qui peuvent déplaire à certains secteurs et qui peuvent avoir de mauvaises conséquences économiques. Le jour où on interdira la corrida, où on voudra freiner le gavage, et d'ailleurs il faudrait dire une position, enfin, il faudrait dire un mot de la position de la Commission européenne sur le gavage, cette exception française. Ce jour-là, on se heurtera à des intérêts économiques forts.
Le gavage, un mot sur le gavage, parce que vous avez mis en appétit son mauvais jeu de mots.
Je crois que tout a été dit sur le gavage. Alors, la France situe ce problème du gavage dans le patrimoine culturel, donc qui est une réponse parallèle un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la tauromachie et tout. Mais je voudrais revenir sur un instant sur les textes et sur la pratique. Hein. C'est vrai que il y a toute une réglementation européenne dans les traités, la Commission européenne, qui est vraiment très très forte. Et que certains autres pays, vous l'avez dit, l'Allemagne, l'Autriche, ont constitutionnalisé ce droit. Bien. Mais en France, je crois qu'il faut faire la différence, lorsqu'on voit les dispositions de nature pénale, il faut faire la différence entre la violence que je qualifierais d'individuelle, qui est réprimée, tout à l'heure, mais en revanche, la violence collective ne l'est pas, ou beaucoup moins. L'abattage, le transport, etc., etc. Donc, je voudrais faire cette...
Que c'est peut-être parce qu'on en profite collectivement ?
Peut-être, mais ça tient aussi au fait qu'on est toujours dans la conception de l'animal-machine, la conception des cartes Malebranche. Et là la violence collective me paraît quelque chose de très fort. Alors, sur la violence individuelle, ce que je voudrais faire aussi, c'est très français, c'est on a les textes, mais...
Oui, la pratique est complètement différente. Là aussi, il y a une schizophrénie française.
Total, complètement différente. C'est des textes, vous avez tous les textes que vous voulez. Mais la pratique, en revanche, laisse beaucoup à désirer.
Comment expliquer cette inefficacité ? Vous êtes magistrat, Jean-Marie Coulon. Pourquoi manque d'attention des services de police, trop de centration sur les violences faites aux hommes ?
Oui, certes, parce que c'est toujours un petit peu la dévalorisation de ce droit. Hein, c'est clair.
Mais, est-ce qu'on ne retrouve pas non plus la faiblesse des associations, ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, et que finalement les associations...
Je suis le premier à regretter que ces associations soient éclatées. Et donc faibles, c'est clair. Mais d'une manière générale, il y a combien de dispositions de nature pénale en France ? On n'en sait rien. 8 à 10 000. Combien sont appliquées ? 400. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et on a fait une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, justement pour répondre à ce souci de contrôle, d'efficacité d'une haute autorité qui aurait des compétences d'inspection, de contrôle.
Et également de poursuite.
Et comme l'haute autorité de sûreté nucléaire, par exemple.
Jean-Baptiste.
Oui, je voudrais rebondir sur cette distinction entre violence individuelle et violence collective. C'est juste, mais il me semble que c'est avant tout en fonction de l'animal qui est utilisé. C'est-à-dire que c'est avant tout une distinction, c'est ce qu'on appelle le spécisme, et j'expliquerai ce que c'est, entre les animaux de consommation, c'est les violences collectives dont on parlait, parce que l'abattage, transport, et l'animal de compagnie qui, lui, est protégé, parce que dans le code pénal, on ne vise pas la protection du bœuf ou du mouton.
En raison précisément de la relation qu'il a, la proximité qu'il a avec l'homme, l'animal de compagnie.
Oui, en fonction de la proximité qu'il a avec l'homme. Et donc là, il faut introduire cette notion assez fondamentale qu'il faut définir, et je le ferai rapidement, qui s'appelle le spécisme. Donc ça, c'est un mot d'origine anglaise qui a été introduit en 1970 par un psychologue britannique qui s'appelle Richard Rider à Oxford, et qui était dans le groupe avec Peter Singer et d'autres dans les années 70 qui ont fait naître l'éthique animale en tant que courant philosophique fort dans le monde anglo-saxon. Et il a construit ce concept sur le modèle, sur un parallèle avec deux autres concepts que sont racisme et sexisme, de la même manière que le racisme est une discrimination selon la race et le sexisme une discrimination selon les sexes. Le spécisme est une discrimination selon l'espèce, c'est-à-dire qu'il consiste à attribuer une considération morale différente, et donc des droits, etc., et plein de choses, à un individu, non pas en fonction de ses caractéristiques, mais en fonction uniquement de son appartenance à une espèce. Et c'est que ça qui nous permet de discriminer entre la manière dont on traite un rat et la manière dont on traite un hamster, alors que biologiquement, ils souffrent de la même manière, et que ce qu'on fait à l'un, c'est quasiment c'est la même famille, et que ce qu'on fait subir à l'un dans un laboratoire nous semble tout à fait normal, mais on aurait peine à imaginer qu'on puisse le faire avec une autre
espèce. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dédifférenciation du monde, pour le dire de manière un peu pédante ? C'est-à-dire, finalement, la nature, c'est aussi une sorte de hiérarchie des... Quoi de hiérarchie ? C'est une sorte de complémentarité, de diversité. La biodiversité est en soi une valeur, et en même temps, le spécisme critiquerait cette diversité, ces différences.
Non, parce que il y a des différences et il faut en tenir compte. Ce que le spécisme va dire, c'est qu'il faut simplement s'adapter aux capacités des individus. Un exemple très simple, si vous avez une poule a des ailes, la nature lui a donné des ailes. Elle a donc le droit, on pourrait dire, et on devrait avoir le devoir de ne pas la mettre dans un espace où elle ne peut pas étendre ses ailes, ne serait-ce que par le fait qu'elle a la capacité d'étendre ses ailes. Elle devrait pouvoir en jouir et les utiliser. Dire ça, c'est s'adapter à l'animal, c'est tenir compte de la diversité et de cette biodiversité dont vous parlez. À l'inverse, le problème du spécisme, c'est quand on a une relation qui est affective et qui est arbitraire sur des critères qui ne sont pas des critères naturels, qui ne dépendent pas des capacités. Pourquoi est-ce qu'on préfère la biche au loup parce que la biche est mignonne, gentille? Pourquoi est-ce qu'on aime les bébés phoques et pourquoi est-ce qu'ils ont un impact si grand et pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés dans les campagnes de défense animale pour les mêmes raisons? Autrement dit, ce sont des critères esthético-affectifs.
Là, vous introduisez une troisième espèce, quoi, espèce juridique, qui est l'animal sauvage. Et à vous lire, Jean-Marie Coulon, il y a plusieurs... Les juristes ont surdéterminé les espèces animales en disant il y a les animaux de compagnie, les consommations et l'espèce sauvage qui obéissent à trois régimes juridiques différents.
Si on peut parler de régime juridique, oui, pour l'espèce sauvage.
Exactement, c'est le problème. Ouais.
Je crois qu'il n'y a aucun régime juridique.
Il y a un vide.
Et pourtant, il y a une réglementation européenne internationale pour le thon, pour protéger la biodiversité.
Mais ça s'inscrit...
C'est de la gestion, c'est pas...
Voilà, l'espèce sauvage, ça s'inscrit globalement dans l'environnement.
C'est ça. Alors, vous parliez des poules et de leur nécessité d'être dans un espace où elles pourraient déployer leurs ailes, mais la réglementation du bien-être animal, c'est une législation extrêmement grise, Jean-Marie Coulon. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans l'affirmation de la loi pénale, on est dans des règlements européens, des règlements transposés ou pas transposés en France, qui en assure l'application.
Vous avez mille fois raison de soulever ce problème, et il est d'actualité d'ailleurs, parce que lorsqu'on parle de bien-être animal, on fait référence à son comportement physique et mental, d'une certaine manière. Alors qu'on parle souvent, et peut-être même de plus en plus, de bien-traitance. Et c'est l'opposition bien-traitance-bien-être. Bien-traitance, c'est assurer son comportement de choses, c'est assurer son comportement physique, mais ça ne va pas plus loin.
C'est-à-dire qu'il est...
D'objet. Là encore, on voit la différence entre objet de droit et sujet de droit. D'objet. Alors que... Donc c'est la bien-traitance. Alors que le bien-être, c'est justement l'ensemble. C'est-à-dire physique, mental, possibilité de se mouvoir dans son milieu, etc. etc.
Mais est-ce qu'avec le bien-être, je me retourne vers le philosophe, est-ce qu'avec le bien-être, on n'est pas dans l'utopie politique? C'est-à-dire que, oui, nous avons construit, par exemple, le welfare state, qui emploie, entre parenthèses, le même mot. Le welfare state, c'était une utopie politique, ou un idéal politique, parlons pas nécessairement d'utopie. C'est-à-dire faire en sorte que, combattre les inégalités et permettre à chacun d'avoir un minimum de conditions pour réaliser son bonheur privé. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, là, Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer, en partie où on parle de bien-être? Est-ce qu'on n'est pas dans une obligation positive qui ressort de la construction politique, du pacte?
Oui, c'est vrai, mais il faut d'abord définir le bien-être et montrer qu'il y a un problème de définition déjà à la base, qui est lié à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le bien-être, on en a une définition seulement négative et qui est d'ailleurs contestée. C'est quoi le bien-être? C'est l'absence de faim, de soif, de souffrance, et ce serait... La seule définition positive qu'on pourrait en faire, ce serait la capacité d'exprimer des comportements naturels.
Les 10 capacités.
Et des capacités. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que ça ne suffit pas.
Parce que vous dites, excusez-moi de vous interrompre, je voudrais citer votre ouvrage, Jean-Marie Coulon, vous dites, ces animaux ont le droit de poursuivre le cours de leur vie dans l'intégrité anatomique de leur organisme et la plénitude de la physiologie de leurs organes.
Oui, c'est ce qu'on disait pour la poule. C'est-à-dire que si leur organisme dispose d'elle, il faut qu'elle soit capable de les utiliser.
C'est ça, donc c'est ça le bien-être animal.
Oui, mais alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, en tant que concept statique, on peut penser à une utopie. C'est pour ça qu'il faut le faire précéder de quelque chose. Et ces quelque chose sont des verbes. Et on va dire il s'agit de maximiser le bien-être animal ou de minimiser la souffrance. Si vous dites ça, vous êtes un welfariste. Et c'est-à-dire que vous avez une position qui est plutôt modérée, qui ne vise pas à contester qu'on puisse exploiter l'animal, mais qui consiste à dire qu'on doit maximiser son bien-être dans notre exploitation. À l'opposé, vous pouvez être abolitionniste.
Alors c'est ça, que j'ai, qui est la position la plus radicale, la plus extrême.
Qui est plus radicale, puisqu'elle vise,
ce que c'est que le...
eh bien, elle vise à contester non le fait qu'on ait telle ou telle pratique, ou qu'on maximise ou minimise le bien-être, mais qu'il y ait même cette histoire de bien-être, voire de bien-traitance, qui implique une relation avec l'homme. C'est-à-dire que l'abolitionnisme va dire qu'on doit abolir l'exploitation animale.
Abolir toutes ses formes, y compris pour la consommation.
Toutes ses formes, y compris pour sa consommation. Et là, il faut introduire une différence de degré entre les gens qui sont végétariens, c'est-à-dire qui cessent de manger de la chair animale, les gens qui sont végétaliens, qui cessent de consommer des produits animaux, donc y compris le miel, les œufs, le lait, etc. Et les gens qui sont véganes, ce qu'on appelle le véganisme en anglais, et qui, eux, ne consomment pas du tout, et ça ne concerne pas que les aliments de produits animaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter de chaussures en cuir, ils ne vont pas consommer de médicaments qui ont été testés pour les animaux, etc. Donc ces gens-là sont des purs abolitionnistes, dans le sens où leur modèle de société est une société dans laquelle il n'y a pas d'exploitation animale. Et là, effectivement, ça peut renvoyer à une utopie, mais ce n'est pas la notion de bien-être qui est à l'origine de ça. Exactement. C'est plutôt la notion de droit des animaux. Et le droit, en l'occurrence, ce ne serait pas le droit à la vie ou le droit de ne pas souffrir, ce serait le droit de ne pas être exploité, c'est-à-dire le droit, comme disait Kant, de ne pas être un moyen, mais d'être uniquement comme l'homme, une fin.
Comme la dignité.
C'est ça. Autrement dit, ça reviendrait à attribuer la dignité à l'animal comme à l'homme, tout simplement, parce qu'on est un animal.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. J'approuve, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on en a parlé. C'est l'expérimentation animale.
Tout à fait.
L'expérimentation animale me paraît quelque chose de fondamental, notamment dans l'optique de ce que vous venez de dire sur les
C'est une instrumentalisation du corps animal.
Tout à fait. Mais sur les positions radicales. Alors, l'expérimentation animale... c'est un sujet fort où il y a des différences d'approche assez essentielles. Bon. Il y a globalement les réformistes et deux, les positions radicales de libération absolue de l'animal avec ce que l'on connaît, des formes de violence, notamment en Angleterre.
Au risque de se priver des bénéfices scientifiques qui ne peuvent se réaliser qu'avec l'expérimentation.
Mais l'homme et l'animal sont placés sur un même pied, donc on doit avoir cette attitude radicale. Alors, la position réformiste est intéressante. Et il y a ce qu'on appelle la règle des trois R, hein, qui, je crois, doit être signalée, c'est-à-dire réduire le plus possible, raffiner les procédures, en quelque sorte, d'expérimentation, et les remplacer, dans la mesure du possible, par des mesures alternatives.
Le minimum.
Le minimum.
Quand on ne peut pas faire autrement.
Quand on ne peut pas faire autrement, voilà.
Alors, sur l'expérimentation, il n'empêche qu'on continue on continue d'avoir ce rapport inégalitaire entre l'homme et l'animal, qui est contesté par les abolitionnistes.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que la scission est très très claire dans le milieu de l'éthique animale. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent de front à toute expérimentation animale, même s'il s'agit de faire la recherche contre le cancer ou même s'il s'agit de trouver un médicament pour sauver votre enfant. Il y a des gens qui vont aller jusque-là. Il y en a d'autres qui sont plus modérés et qui vont dire, alors ça dépend, pourquoi est-ce qu'on expérimente? Montrez-nous, prouvez-nous que c'est absolument utile et nécessaire. Et là, on ne parle pas de faire des tests pour valider des cosmétiques, par exemple. On parle de recherche biomédicale, dans des cas où c'est uniquement nécessaire. La grande difficulté dans ce domaine-là, c'est qu'on ne sait souvent pas au début de la recherche si elle sera utile et qu'on peut consommer un grand nombre d'animaux.
C'est le propre de la recherche.
Voilà, c'est le propre de la recherche. C'est parce qu'on cherche quelque chose. On n'a pas trouvé avant de chercher.
On ne sait pas ce qu'on trouve.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est une difficulté.
Alors, il reste quelques minutes et je voudrais qu'on les consacre à l'avenir de ce droit animal, parce qu'on voit à quel point il est évolutif. On voit à quel point nous sommes en présence pour l'instant d'une constellation de dispositions juridiques qui n'ont pas trouvé leur unité, ni leur unité conceptuelle, ni même peut-être leur unité en justification. Alors, quel est, selon vous, Jean-Marie Coulon, l'avenir vous parlez d'une véritable révolution éthique. Vous vous situez sur deux plans, en quelque sorte. Une révolution éthique, c'est en quoi l'animal, le rapport à l'animal devrait changer notre rapport au monde, d'une manière générale, à la nature et à l'autre. Et ensuite, comment rendre plus cohérent et donc plus productif, plus efficace nos dispositifs juridiques concernant l'animal.
Je vais vous faire une réponse peut-être en forme de paradoxe. Le juriste que je suis croit peut-être plus à l'éthique qu'au droit. Oui, mais n'empêche qu'il faut quand même traduire les règles éthiques en règles juridiques.
Au risque de multiplier de lois inappliquées.
Voilà, c'est ça. Et une loi inappliquée, c'est quand même aussi l'aveu d'un échec, d'une certaine manière.
Bon. Alors, je ne voudrais pas être pessimiste pour conclure, parce qu'il faut quand même voir que l'animal, notion d'être vivant, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. On en parle. Nous sommes là aujourd'hui, tous les trois, pour en
parler.
Et ça
s'installe dans les facultés de droit françaises ?
Non, pas encore. Si, il y a 2 ou 3 thèses.
Mais il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de rubrique.
Je ne donnerai pas de nom, mais enfin, l'université de Limoges, par exemple, est une université qui est très en pointe en droit européen, en droit d'animal. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs un hasard.
Bien sûr.
Et il y a une revue qui vient d'être créée, une revue comme la revue trimestrielle de droit civil, comme la revue de sciences criminelles en droit de l'animal, pilotée par l'université de Limoges. Donc, ce que je veux dire, c'est tout de même l'optimisme, c'est qu'il y a une réglementation qui est quand même plus claire aujourd'hui, souvent européenne, et la législation pénale française. Mais en revanche, c'est le revers de la médaille, c'est l'ambiguïté juridique, l'ambiguïté du code civil, qui tient au fait que on dit en quelque sorte de l'animal ce qu'il n'est pas, mais on ne dit pas ce qu'il est. Voilà, c'est l'approche. C'est
une approche négative.
Donc voilà, une approche négative qui tient un petit peu à l'ambiguïté. Sujet, objet,
Et vous auriez jusqu'à l'idée d'une personnalisation, ce que vous dites dans votre livre, oui, il y a bien des personnes morales.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a un usage métaphorique de l'idée de personne en
bien
droit, transposée à des sociétés, transposée à des entités fictives. Pourquoi
bien
ne
sûr.
Pas la transposer
Mais
à l'animal également ?
Mais bien sûr. Alors, bah, évidemment, on va être la risée, on va dire, mais enfin, comment un chien-chat ne va pas agir en justice ? Mais vous avez des possibilités d'agir en justice qui sont reconnues par représentation. Enfin, je ne sais pas, je prends l'exemple du fœtus, par exemple. Enfin, et bien d'autres exemples.
C'est d'ailleurs un argument qui est souvent invoqué, de dire, eh bien, la condition de l'homme très diminué, du handicapé mental, de l'enfant, celui qui ne parle pas, du fœtus, voilà. Voire du comateux, ouais. Eh bien, nous sommes dans une situation qui est assez proche, finalement, de celle de l'animal.
Oui, oui. Et alors, pour terminer, c'est l'élevage industriel, enfin, qui vraiment
qui
pose problème. Profit, souffrance, c'est les deux termes.
Hein. C'est ça, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la dimension économique qui est bien sûr présente, on peut se demander dans quelle mesure il y aurait.
Mais
pas...
La dimension économique nouvelle, je pense, en environnement, peut-être une manière de répondre aussi.
Alors, Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemaire, votre...
Sur l'avenir ?
Sur l'avenir.
Sur l'avenir, comme Jean-Marie Coulon, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose du droit, qui est souvent au wagon...
À la
traîne de l'évolution de la société. Il faut d'abord que l'opinion et la société avancent là-dessus. Donc, moi, je mets mon espoir dans l'éducation. Et je pense que c'est à travers l'enseignement, à travers ce que proposait la LFDA, la Ligue française des droits de l'animal, il y a quelques années, plus longtemps déjà, une formation juridico-zoonomique dans les écoles, etc. Et à travers, même plus fondamentalement, puisque là, on parle de ce qui peut se passer dans l'enseignement supérieur, mais plus fondamentalement, la manière dont on parle de l'animal aux enfants. Voir, revoir, parce que le spécisme dont on parlait tout à l'heure, il est à l'œuvre dans les livres pour enfants. Il faut voir la manière dont les animaux sont présentés. Il faut voir notamment la manière dont les animaux de ferme sont présentés. Ce portrait idyllique du porc qui se roule dans sa paille, de la vache qui est heureuse d'aller à l'abattoir, etc., et qu'on voit dans les bandes dessinées ou dans les livres pour enfants, c'est pas comme ça que ça se passe la ferme aujourd'hui, alors que plus de 90% de l'élevage est industriel. Donc, sans forcément dégoûter les enfants, au moins être davantage honnête avec eux et leur parler différemment de l'animal, autrement dit, ne pas les conditionner à devenir des exploitants de l'animal sans vergogne.
Et vous rapportez même des choses même beaucoup plus inquiétantes sur une éducation au spectacle de la souffrance dans certaines écoles qui ne sont pas bien sûr des pratiques admises et qui ne sont pas des pratiques...
On pense à la corrida ici, oui.
Oui, bien sûr, et qui ne sont pas sont posées de problème. Eh bien, Jean-Marie Coulon, Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemaire, merci beaucoup. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Les droits de l'animal avec Jean-Claude Nouette aux éditions Dalloz, et en ce qui vous concerne Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemaire, Éthique animale, préfacé par Peter Singer aux éditions des Presses universitaires de France.